Slate Podcast.
Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis bientôt 5 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Cet épisode ne sera pas tout à fait comme les autres, puisque cette fois je vais répondre aux questions que vous vous posez sur C'est compliqué. Je suis avec le rédacteur en chef de slate.fr, Christophe. Bonjour Christophe.
Salut Lucille, ça fait 5 ans que tu réponds aux lecteurs et aux lectrices de Slate, à l'écrit et dans ce podcast. De cette expérience, tu as même tiré un livre qui s'appelle « Aimer c'est compliqué », sorti le 12 juin aux éditions Le Duc. Les fidèles de Slate te posent des questions sur leur vie sentimentale ou sur leur vie tout court, mais pas seulement. Parfois, ils s'interrogent aussi sur la manière dont tu travailles. Alors on s'est dit que pour cette dernière émission de la saison, j'allais me faire leur porte-voix et on commence par une question de Fanny, qui a 28 ans et qui vit à Rennes. Comment as-tu eu l'idée de cette rubrique ?
Alors l'idée, elle vient pas de moi, elle vient de la rédaction de Slate et particulièrement de Joanne Hufnagel qui partait de Slate en septembre 2014. L'annonce a été faite de son départ, je l'ai contacté pour lui souhaiter un peu bon vent et là il m'a proposé cette idée de faire ce courrier du cœur, cette colonne qui existait dans Slate.com puisque c'est dans une culture très anglo-saxonne de faire des courriers de lecteurs comme ça et en France on n'avait pas du tout ce format. Il y avait un problème de voix, il y avait un problème de personnification. Ils n'avaient pas trouvé la bonne journaliste pour faire ça. On a fait des tests pendant quelques jours et puis quand il a été satisfait, il m'a dit c'est bon, on donne les clés de cette chronique. Et ça a été commencé du coup entre septembre et octobre 2014. Ça fait maintenant 5 ans.
Tu réponds à de vrais gens parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les témoignages sont authentiques ? Tu promets que t'inventes rien ?
Alors non, j'invente rien. Je prends déjà beaucoup de temps à répondre, à vrai dire. Ce serait hyper dur de devoir avoir l'idée depuis 5 ans de toutes ces questions, de tous ces gens, de toutes ces vies, et en plus de faire les réponses. Le seul truc que je fais, c'est que je ne fais pas d'enquête de moralité sur les gens qui m'écrivent. C'est-à-dire que je ne vais pas aller vérifier s'ils existent vraiment sur Internet. Je ne vais pas checker leur LinkedIn, leur Facebook. Vérifier, c'est tout ce que ma raconte est véridique. Par contre, j'estime qu'à partir du moment où on s'est fait chier à m'écrire un long texte pour m'expliquer une problématique, je pars du principe qu'elle est vraie et évidemment j'y réponds en partant de ce postulat. Bien sûr je ne choisis pas des choses qui ont l'air complètement mitonnées, ça arrive parfois pour des moqueries, des choses un peu plus je sais pas, un exercice de style. Quand c'est comme ça, en général je les mets vraiment de côté. Je choisis souvent celles qui me touchent le plus et c'est souvent par une sorte d'humanité qui reflète un peu l'honnêteté.
Donc ce que tu nous dis, c'est que c'est moins les gens qui posent les questions que les questions qui t'intéressent. Et c'est une question que pose Maria, justement, 34 ans, de Nice, qui se demande comment tu choisis les questions ? Qu'est-ce qu'une bonne question ? Qu'est-ce qu'un bon témoignage ?
Il y a une donnée de départ qui est la longueur du témoignage. Je ne choisis pas des témoignages qui sont trop courts parce qu'il y a besoin quand même de prendre le temps de raconter quelque chose et de d'expliquer un peu le contexte. Je ne choisis pas non plus des témoignages trop longs parce que ça m'oblige forcément à couper des choses et donc à trahir un petit peu le témoignage initial. Mais dans une certaine longueur, j'ai déjà beaucoup de choix. Et un bon témoignage, c'est quelqu'un qui va me toucher. En fait, qui raconte quelque chose un peu de notre société. Ça peut être très con, ça peut être des choses dont on estime qu'elles sont pas si graves, mais parfois juste leur voix est touchante. J'essaye aussi en général de ne pas me répéter, c'est-à-dire d'une semaine à l'autre, je vais pas choisir des témoignages qui sont exactement dans le même type de témoignage. Ça va être des histoires de tromperie par exemple, je vais pas les enchaîner sur 3 semaines, mais parfois je les mets de côté et je les réutilise plus tard. En fait, je choisis en général mes témoignages sur un mois quasiment, j'en reçois beaucoup et du coup je les laisse sur mon bureau d'ordinateur. Je les lis une fois pour les choisir et puis je les range là. Et puis après, il reste avec moi pendant quelques semaines dans ma tête. C'est là que je fais aussi mon travail de recherche pour ma réponse. Et ensuite, je me mets à les écrire. Il y a tout un travail de digestion de leur histoire. Mais avant, ils font un petit peu partie de ma vie et ils rentrent dans ma vie. Et c'est comme ça que je travaille.
Alors, c'est un gimmick qui revient souvent, qui revient à chaque chronique, écrite ou podcast. Tu dis, tu n'es ni gourou ni psy, tu es juste journaliste. Du coup, comment tu construis tes réponses ?
Mon travail de journaliste fait que, du coup, je suis par nature, j'ai envie de faire des recherches. Donc, ça va être des recherches d'occurrence, que ce soit dans la chronique, dans ce que j'ai répondu par le passé, parfois dans des textes juridiques. parfois aussi dans des choses d'actualité. C'est là, en fait, que va se placer mon travail de journaliste. Après, la raison pour laquelle on m'a choisi pour faire cette chronique et la raison pour laquelle je la continue et que les gens la lisent et l'écoutent, c'est parce que c'est moi qui le fais. Et du coup, j'y mets aussi beaucoup de moi. Donc, c'est là que le côté ni psy ni gourou entre en ligne de compte. C'est que je me permets parfois d'aller chercher dans mon histoire personnelle pour étayer mon propos et expliquer pourquoi j'ai pris comme ça cette histoire. Ça m'est arrivé de parler de mon divorce, de mes enfants, de mon orientation sexuelle. Et c'est quelque chose, je pense, qui fait vraiment la richesse de la chronique.
Paul de Lyon se demande si tu n'es pas lassé par certains thèmes qui reviennent régulièrement.
Alors, c'est jamais lassant parce qu'il y a toujours une souffrance derrière et que la souffrance, elle est unique. Les gens sont uniques. Et non, en fait, je pense qu'on pourrait me parler toute la journée de problématiques de couple, de questions sur la société et sur la façon dont on est vu par la société. Ça ne me lasse pas du tout. Au contraire, ça a plutôt tendance à me faire beaucoup plus réfléchir, à m'indigner parfois. Mon militantisme se construit aussi à travers cette chronique. Et non. Aucune lassitude, vraiment.
Il y a des thèmes que tu aimerais traiter un peu plus souvent ?
Mais j'aimerais bien traiter un tout petit peu plus tout ce qui va être relatif au LGBT, en l'occurrence. C'est quelque chose que je trouve assez fort et assez important dans la chronique. Je le fais régulièrement, mais le faire plus, c'est pourquoi pas. Au début, on croyait qu'on n'aurait pas assez de témoignages d'hommes. C'est pas le cas. On a la chance que quand même pas mal d'hommes nous écrivent, à peu près 30% de ce que je reçois est écrit par un homme ou quelqu'un qui s'assimile en tant qu'homme. Et j'aimerais que ça continue. C'est quelque chose, je trouve, d'assez fort parce qu'en tant que féministe, c'est facile pour moi de toujours être du côté de la personne qui m'écrit. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un contre-pied, de réfléchir à travers ces témoignages-là qui sont très différents de mon expérience.
Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont tabous pour toi ?
C'est une vraie question qu'on s'est posée au début de la chronique. En particulier en ce qui concerne les fétichismes ou certaines, enfin, pas des orientations sexuelles, mais des envies sexuelles. J'avais dit que je ne traiterai pas à l'origine tout ce qui était relatif à la pédophilie. J'ai changé d'avis sur cette question parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce que je croyais il y a 5 ans et que c'est tout à fait possible de réfléchir en fait à ce thème globalement. C'est ce que j'ai découvert en traitant de l'inceste, par exemple, l'inceste frère-sœur. C'est des choses qui font... C'est une chronique dont le but est aussi de sortir de ma zone de confort. Si toute la journée, le but c'était que je fasse une tribune féministe en ne parlant qu'avec des gens avec qui j'étais d'accord, ce serait à la fois trop facile et pas du tout intéressant. Et comme la chronique a pour but de dresser un portrait de la société française, il faut qu'elle soit vraiment dans la pluralité. Donc aujourd'hui, je pense que je me ferme plus à grand-chose.
Nous avons une question de Fabien, 24 ans, de Paris, qui se demande si un témoignage ou une question qui t'a particulièrement marqué.
Alors Fabien, en fait le livre Aimer c'est compliqué revient sur les 15 témoignages qui m'ont le plus marqué. Alors il y en a eu évidemment d'autres, il n'y a pas d'ordre non plus, c'est pas un top 15, mais il y a des témoignages qui m'ont évidemment marqué. Le témoignage de Jeanne au tout début de la chronique, c'était en octobre ou en novembre 2014, et Jeanne m'écrivait pour me demander si elle pensait qu'elle avait été violée, en me racontant une expérience dans son passé. Ça a été une chronique très forte pour moi parce que c'était vraiment le tout début de C'est compliqué. Déjà, j'étais plus jeune dans mon féminisme aussi, j'étais plus jeune sur plein de questions, la société était très différente, on était vraiment avant MeToo, avant toutes ces problématiques sur le consentement, et je pense que ça m'a vraiment jetée dans le vif du sujet. Je me suis dit, c'est une grande responsabilité que de faire cette chronique, que de faire mes réponses, et qu'il allait falloir que j'assume mes réponses quoi qu'il arrive. J'ai eu très peur de faire du mal à Jeanne avec ma réponse. Il y a eu aussi, ça a été l'occasion de faire un débat avec la rédaction sur ce qu'on pouvait se permettre ou pas à travers la chronique. Et j'ai la chance depuis le départ, sauf sur celle-ci du coup, mais c'est expliqué dans le livre, de ne pas être censurée par la rédaction et d'avoir un espace de liberté totale sur ce que je raconte. Mais après, du coup, il faut que j'ai les épaules pour assumer ce que je réponds. Et cette chronique-là spécifiquement m'a beaucoup marquée parce qu'on a échangé après avec Jeanne aussi sur comment la société avait changé. Le livre revient en fait sur où en sont les gens aujourd'hui, et Jeanne spécifiquement, ça fait donc 5 ans. Et elle a aussi pris du recul par rapport à son histoire. Donc c'est cette force-là en fait qu'a le livre aujourd'hui, c'est ce recul, mais qu'on a en fait à la rédaction à travers la chronique. C'est-à-dire, on sait que les premières chroniques, on les publierait peut-être pas de la même manière, on répondrait pas de la même manière, en tout cas moi, certainement pas, sur certains sujets, et je pense que c'est toujours pour le mieux. C'est aussi un constat très positif qu'on fait, c'est que finalement j'ai l'impression qu'on ne fait que s'améliorer, et que la société s'améliore doucement sur certains sujets. C'est ce qu'on voit à travers C'est compliqué.
T'as évoqué une censure de la part de la rédaction, c'était plutôt un débat, j'imagine. Tu en parles dans le livre, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé?
C'était un débat et pas un débat, puisqu'en l'occurrence, j'avais pas l'expérience et le poids que j'avais à travers cette chronique pour me battre contre la rédaction, mais on m'a expliqué, et c'était une position qui se tenait, que Slate, c'était un média, que j'étais une journaliste et que c'était pas à moi de faire des jugements, en l'occurrence pas sur Jeanne, mais sur les personnes qui l'avaient agressée. Donc je pouvais pas décider moi si c'était un viol ou pas. En l'occurrence, maintenant et même à l'époque, je pense qu'on sait comment on définit un viol. Et ce qu'elle avait vécu a été un viol. Je l'avais mis dans ma chronique initiale et la rédaction avait répondu que c'était pas possible de se mouiller à ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas le cas. Je sais, Christophe, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu et tout ce, comment la façon dont les médias ont évolué, je pense pas que ça poserait problème.
Justement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a une question assez intéressante d'Aurore qui nous a écrit, qui nous demande « Chère Lucille, qu'est-ce que cette chronique t'a appris en 5 ans sur toi et sur les autres ?»
Je crois que ça a développé mon côté empathique. Je l'étais déjà, c'était quelque chose qui était une qualité, je pense, qui a fait que j'ai eu le droit de me lancer dans l'aventure. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé parce qu'en réalité, j'ai appris à quel point ces mots d'inconnus que je recevais par mail, quand même quelque chose d'assez impersonnel comme ça, pouvaient avoir une incidence sur ma vie. Ça m'est arrivé de passer des jours entiers à être plombée par une histoire, de pleurer à cause de ces gens, grâce à ces gens, de réfléchir sur des problématiques que j'aurais jamais réfléchi sans ça. Je pense que c'est une richesse, ça. On peut croire que là je raconte que des trucs négatifs, mais en réalité se poser autant de questions sur les autres et pas être focus sur sa propre histoire, c'est une vraie qualité, je pense. Donc ça m'a appris à être une meilleure personne, je pense, probablement aussi une meilleure journaliste, puisque je protège énormément les gens avec qui je travaille. Je continue ce travail de témoignage à travers les podcasts qu'on produit avec Slate, et c'est vraiment comme ça que je veux voir ma carrière se développer, à travers le témoignage.
Les auditeurs de ton podcast le savent, on a un numéro WhatsApp, c'est le 07 61 76 74 01 et Sonia nous a envoyé un petit message sur WhatsApp pour te poser une question. Elle se demande si tu as des nouvelles de gens auxquels tu as répondu dans ta chronique.
Le principe de C'est compliqué, c'est pas forcément qu'on lance un dialogue avec les gens. En général, quand ils m'écrivent, certains utilisent des boîtes mail qu'ils n'utilisent pas au quotidien pour se protéger. D'autres, pas du tout, ils utilisent en boîte mail de travail ou personnel. Mais en fait, on ne lance pas plus que ça la discussion. Et souvent, le fait de jeter comme ça leur histoire à une inconnue, ça les soulage déjà suffisamment. Donc en fait, ils n'ont pas besoin forcément de lire ma réponse, pour certains. Ceux qui m'ont donné des nouvelles après ont été très positifs. J'ai de la chance que ce soit une chronique qui soit parfois critiquée par des internautes en particulier, comme c'est le cas quand on publie sur Internet. Mais les gens qui ont participé, les gens qui ont témoigné, sont majoritairement très positifs. Et c'est ce qui compte le plus pour moi en réalité. Je pense que je me remettrais vraiment beaucoup en cause si j'étais accusée d'avoir trahi une histoire par des gens qui ont témoigné. Le livre revient donc du coup sur ces 15 histoires et j'ai été rechercher les gens de ces histoires pour leur demander où ils en étaient aujourd'hui. C'est là que j'ai eu des réponses aussi plus étayées sur des nouvelles en fait, sur comment ils allaient aujourd'hui, sur comment ils avaient résolu ou pas leurs problèmes. Et donc je vous laisse acheter le livre pour voir. Mais majoritairement, encore une fois, c'est on voit que le travail de raconter, de témoigner, de prendre le temps d'écrire a toujours été bénéfique et important pour les gens. C'est-à-dire que quand on a le nez sur son problème, on peut tomber dans des spirales d'angoisse, de stress et vraiment de dépression presque pour certains. Et prendre le temps de se poser et de raconter, je pense qu'à l'oral ça peut être fait aussi, mais à l'écrit c'est aussi un procédé différent. C'est toujours bénéfique et on a pu le voir avec la chronique quand même majoritairement.
Aimer c'est compliqué, donc c'est le livre dont tu parles. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce livre ?
Alors encore une fois, c'est une histoire de rencontre. Donc la chronique s'est lancée parce qu'on m'a un peu demandé de le faire ou d'essayer de le faire. Et le livre, c'est un peu pareil. Il y a une éditrice qui est venue me voir un jour et j'aurais jamais pensé en faire un livre. Moi, j'ai l'habitude de publier sur Internet, ce qui m'éloigne quand même beaucoup du papier, de la publication de papier, qui est un peu sacré chez les journalistes. Cette éditrice est arrivée et m'a dit « Mais c'est dingue que personne n'y ait pensé. » Et son enthousiasme et sa compréhension de ce qu'était C'est compliqué et à quel point ça racontait la société m'a beaucoup touché. touchée. Moi-même, je n'avais pas le sentiment que c'était nécessaire. Et plus je travaillais sur ce livre avec elle, et plus, en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un beau cadeau à faire aux gens qui avaient témoigné. Le but de C'est compliqué, c'est que c'est une partie de mon travail et une partie aussi de la vie des gens, des témoignages des gens. Et Slate leur donne une visibilité à leurs problèmes et à eux-mêmes. Et le livre, c'est pareil. C'est un peu... On estime que vos histoires, vos problèmes, votre vie, ce que vous êtes, méritent d'être publiés en papier. Et je trouve, en tout cas pour moi, c'est important d'être le porte-voix de ces gens, d'incarner ces gens et de leur laisser une place. Je pense que ce livre, c'est mon livre, mais c'est aussi le livre de tous les gens qui ont témoigné, les 15 qui sont dans le livre et les centaines qui ont écrit assez compliqué ces dernières années. Pour moi, c'est la raison du livre.
C'est donc 15 chroniques que tu as réunies avec la genèse de cette chronique. C'est aux éditions Le Duc et c'est sorti le 12 juin dernier. Merci Lucille d'avoir pris le temps de répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. C'est compliqué, le podcast revient en septembre et on te retrouve cet été avec une nouvelle collection de podcasts qui s'appelle Les lieux du sexe, à écouter sur slate.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.
Merci Christophe. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.